foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes. Ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 17 février 2021. Alors bienvenue à cette table ronde qui accueille deux fois par mois des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser des éléments de l'actualité récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés par les médias que nous lisons et fréquentons quotidiennement. Durant la prochaine heure, on demandera à ces spécialistes de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui, parfois, nous questionnent et nous déroutent. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours. Laissez-moi vous les présenter. Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de la branche canadienne de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour François.
Toujours en zone rouge?
toujours en zone rouge et en télétravail.
Et en bonne santé quand même.
Oui, oui.
Très bien. Alors aussi en studio cette fois, Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Bonjour Louis.
Bonjour François.
Première participation cette année, en 2021, à Foi et Turbulence.
Bienvenue. Mais oui, je m'en réjouis.
Et aussi au téléphone, Francis Daou, bibliste et directeur général de SOCABI, la Société catholique de la Bible. Bonjour Francis.
Oui, bonjour François.
Tout va bien pour vous?
En zone rouge, en télétravail, comme Marie-Claude, alors je partage son point de vue.
Ben alors, bonne émission à tous les trois. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'ex-président Donald Trump qui, pour une deuxième fois, échappe à la destitution. Il sera aussi question du nombre de personnes permises dans les lieux de culte au Québec. Mais d'abord, une discussion sur les annonces faites hier en après-midi par le premier ministre François Legault. Alors, vous étiez devant vos téléviseurs probablement à 17h hier après-midi. Alors, vous avez entendu le premier ministre François Legault reconduire les principales mesures qu'il avait déjà mises en place et ce sera jusqu'au 8 mars, a-t-il annoncé. Néanmoins, bon, par exemple, je vous donne tout de suite là, les mesures qui continuent d'être en place. C'est le cas du couvre-feu de 20h en zone rouge et celui de 21h30 en zone orange. Les rassemblements vont demeurer interdits et les déplacements interrégionaux fortement déconseillés sur l'ensemble du territoire du Québec. Toutefois, afin de permettre aux familles de profiter de la semaine de relâche du 1er au 5 mars, le premier ministre a annoncé certains assouplissements qui seront en vigueur à partir du vendredi 26 février, c'est bientôt ça, dans les régions qui se trouvent en zone rouge. Les cinémas, par exemple, pourront de nouveau accueillir leur clientèle, mais dans le respect des mesures en vigueur, dont le port obligatoire du masque. Vous avez compris tout de suite que si vous devez porter un masque à l'intérieur d'un cinéma, vous ne pourrez pas manger de pop-corn. Il n'y aura aucune vente de nourriture. Vous devez aussi respecter la distanciation de 2 mètres. Attention, ce sera 250 personnes par salle, même dans les salles de très grande taille. 250 personnes, c'est bien le nombre maximum. Dans les petites salles, ce sera beaucoup moins. Alors, les activités sportives et récréatives seront permises à l'intérieur, dans des lieux publics, pour les personnes d'une même résidence ou pour un maximum de 8 personnes de résidences différentes. Dernier élément annoncé par le premier ministre François Legault, pour les chalets, qui sont très populaires pendant la semaine de relâche, d'autant plus que les gens ne pourront pas voyager à l'extérieur du Québec ou du Canada, il sera strictement interdit pour des personnes provenant de 2 adresses différentes de se rassembler dans les chalets. Francis Daou, je m'adresse d'abord à vous. Ce que le premier ministre a annoncé, c'était vraiment des accommodements pour les familles.
C'est ce ce qu'on voit, et puis, bon, il faut comprendre, c'est pas un travail qui est facile, là, présentement, pour le gouvernement Legault, d'essayer de maintenir un équilibre entre, disons, santé publique et bien-être public, ou on pourrait dire entre santé physique et santé mentale. Donc, il faut essayer quand même de donner un peu de liberté aux gens qui puissent profiter là, de cette semaine de relâche-là. Personnellement, moi, ça va me donner l'occasion de voir mon fils que j'ai pas vu depuis le début du mois de janvier. Donc, j'ai hâte à cette semaine-là. Et oui, il va y avoir un déplacement inter-région. Maintenant, je crois que c'est important présentement parce que la semaine de lecture, elle arrive de relâche. Soyons honnêtes, c'est oui. plus une semaine de relâche qu'une semaine de lecture.
Ça dit votre âge, je pense.
L'université, oui. Et ça arrive à un moment de l'année qui est difficile habituellement pour bien des gens. Donc, avec l'hiver, la diminution bon, de l'ensoleillement, de la chaleur, tout ça, le mois de février, le début du mois de mars, sont des moments qui sont plus difficiles au niveau du moral pour la majorité des personnes. C'est pas pour rien que le mois de la prévention du suicide, c'est le mois de février. Et puis, ça fait 11 mois aussi qu'on est en différents degrés de confinement. Donc, à un moment donné, c'est normal d'essayer d'être prudent à ce niveau-là, d'essayer de permettre certaines choses aux gens, parce qu'il y a quand même une amélioration par rapport au début du mois de janvier. Il y a quand même plus de 50%, une diminution de plus de 50%. Donc, c'est quand même pas rien. On peut peut-être se permettre un petit peu plus d'activités comme ça. Mais en même temps, la chose que je retiens, c'est que je me dis, oui, bon, je suis d'accord de lire toute la liste des restrictions, des mesures qui doivent être prises. Je suis prêt à les appliquer aussi, mais je commence aussi à me demander, bon, mais qu'est-ce que le gouvernement fait de son côté? Parce qu'au niveau du processus de vaccination, hein, il y a une étude qui est sortie récemment qui disait que si on continuait à cette vitesse-là, le processus de vaccination se terminerait en 2032.
Oui.
Alors, ce serait peut-être intéressant aussi de voir qu'est-ce que le gouvernement fait de façon concrète là, pour accélérer ce processus-là. On peut faire des efforts, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on veut voir la lumière au bout du tunnel aussi.
Oui, juste imaginer 10 ans de confinement, là, c'est dur là, pour le moral. Louis Rousseau, j'ai l'impression quand même que plusieurs personnes risquent d'élever la voix, particulièrement des experts, en disant la relâche scolaire, c'est justement pas le temps de relâcher la garde. Est-ce qu'on n'a pas déjà donné un peu trop de lest? Est-ce qu'on ne craint pas qu'au terme de la relâche scolaire, on puisse avoir de nombreuses éclosions parce que les gens auront triché ou encore auront tout simplement été dans des salles de cinéma à 250 personnes?
J'ai moins peur pour les salles de cinéma parce que si on veut rentrer dans la salle, il y a toutes sortes de contrôles et il faudrait une émeute dans le hall d'une salle pour que le maximum soit là. Et le propriétaire n'a aucun intérêt à prendre la moindre chance. Il y aura automatiquement des dénonciations tout de suite. Donc, les cinémas, me semble, c'est un peu audacieux, mais c'est presque nécessaire. Le simple critère de la sécurité maximale de la santé ne peut pas être... c'est pas la seule règle qui doit jouer, parce que les plombs sociaux vont sauter. C'est plate à dire, mais les humains ne sont pas des choses. Et le stress que tout le monde vit depuis des mois, il faut à un moment donné une valve de sécurité. Pour ma part, je crois que la décision gouvernementale est le cas type de ce qu'on appelle une décision prudente. Tu prends toutes les dimensions d'un problème, tu regardes d'où on vient, où on va, les prévisions dans le temps de ce qui va être la règle pour l'ensemble de la société. Et moi, en particulier, dans ce Québec, cette année, où il y a beaucoup de neige, c'est le moment pour dire « allez vous amuser » et surtout dehors. Là, en famille, Mais c'est sûr que les kids, là, ils vont être plus que 8 qui vont tout d'un coup décider qu'ils vont glisser. Mais c'est correct. Il y a des risques. Il y aura sans doute une certaine augmentation. Je pense qu'il ne faut pas imaginer là, que tout va se passer comme si on n'était pas, en COVID. On est en COVID, il y aura plus de contacts, il va y avoir une certaine relance. C'est un risque dont je pense qu'il est sage. Vu, entre autres, ce qu'on vient de dire, les vaccins, là, on est en retard. Donc, on n'est pas du tout sur la fin des exigences. On est quelque part, espérons, dans le dernier 25%. Et à mon avis, quand je dis ça, je suis optimiste, là. Mais je pense que la décision est sage. Ça va aider, je crois, à ce que la discipline qu'on va devoir retrouver puisse être retrouvée.
J'aimerais vous entendre là-dessus, Marie-Claude. Vous qui êtes une mère de famille, vous voyez comment ça, la semaine de relâche?
Écoutez, je vous dirais que je suis un peu partagée dans le sens où je pense que ça va faire du bien. Hein. La santé, c'est physique et c'est mental. Alors, je pense que sur le plan, disons, mental, ça va faire du bien de pouvoir aller jouer dehors pour les jeunes, de se rassembler et tout ça. De l'autre côté, je me dis, bon... Il n'y en a presque pas de cas en ce moment. Est-ce qu'on ne devrait pas garder ça comme ça? On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu après Noël. Mais dans ce qui est annoncé par le gouvernement, pour justement être allée avec ma fille quand elle était plus jeune surtout, mais aller au cinéma, aller à la piscine, aller à l'aréna, ben vous savez, c'était déjà plein. Alors, ces lieux-là, maintenant, ont des contraintes. De nombre, hein? À cause de la distanciation, il y a des contraintes sur le nombre. Alors, je me dis, ça va être encore pire, avoir accès à ces activités-là, ben ça sera pas facile. Moi, je pense que ça va être une semaine de relâche, un peu en demi-teinte. On est content d'avoir du lest, mais en même temps, est-ce qu'on peut profiter de tout ça? Probablement pas.
Alors, faisons une vraie semaine de lecture, alors, chez soi. Écoutez, hier, le premier ministre a annoncé cet allègement-là, ces petits allègements, mais en même temps, il y a eu cette phrase qui était, à mon avis, très, très inquiétante. Il a dit « La question du variant britannique n'est pas de savoir s'il va devenir dominant au Québec, mais plutôt quand il va prendre le dessus ». En fait, c'est certain qu'on va être touché et on sait actuellement que c'est il est beaucoup plus infectieux comme virus là. Alors, est-ce qu'on ne craint pas justement de plus grandes éclosions? C'est une équation là qui devient de plus en plus difficile là, pour le gouvernement. Allez-y là-dessus brièvement, Francis.
Bien, écoutez, François, moi, c'est évidemment il faut s'y attendre. Et c'est un peu dans le même sens que j'allais pour tout à l'heure, de dire, mais dans le fond, accélérons le processus pour la vaccination. Là, on sait que cette variante-là s'en vient, alors assurons-nous de protéger la majeure partie là, de la population en vue de ça.
OK. Un des éléments qui a été avancé hier, Louis Rousseau, en tout cas par les journalistes, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des tests directement là, à l'entrée des cinémas, par exemple? Parce que ça nous permettrait déjà de contenir une certaine éclosion. C'est aussi l'idée qu'on a par rapport aux aéroports, là, pour les gens qui vont revenir. Il faut, dès qu'ils descendent de l'avion, avoir un test. On peut pas attendre à 2 jours, 3 jours.
Le point faible dans toutes les dimensions de ce qu'a fait notre gouvernement au Québec et avec, malgré qu'il y ait quelques pépins entre le fédéral et le Québec, je pense pas que c'est très important. Le point faible au Québec, par rapport même à plusieurs des autres provinces du Canada, c'est le testage depuis le début. Et le gouvernement essaie de cacher la chose, de dire oui, mais on n'est pas sûr que ta. On n'a jamais mis le paquet sur ça. Alors, en lien avec la montée de l'impact d'autres variants, dont celui d'Angleterre peut-être pour commencer, mais il y en aura d'autres. Il y en a qui sont déjà enclenchés, qu'on n'a pas encore identifiés. Mais pourquoi, en tout cas moi, je n'ai jamais pensé, senti, vécu que le gouvernement était sérieux dans le testage. Pendant très longtemps, attendez les symptômes. Mais avec des variants plus durs, les symptômes arrivent, mais déjà, on a contaminé plein de gens. Oui, alors, oui. Là-dessus, je suis d'accord avec la suggestion des journalistes. Là, c'est le point faible et le gouvernement ne nous a pas démontré que là-dessus, il était vraiment sérieux.
Et qu'il avait le contrôle. Il reste que du côté du gouvernement fédéral, et j'aimerais vous entendre, Marie-Claude, là-dessus très brièvement, mais c'est à compter du 22 février, là, dans 5 jours, que les voyageurs qui entrent au Canada par avion devront subir un test de dépistage dès leur descente d'avion, mais ils devront aussi s'isoler au moins 3 jours dans un hôtel supervisé. Et même que le coût de ces 3 jours d'hébergement seront assumés par les voyageurs. Combien ça va coûter? Environ 2000 $. C'était la bonne décision, Marie-Claude?
Écoutez, moi, je suis pas contre, parce que il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour peut-être ralentir, hein, on n'évitera pas, mais ralentir ces nombreux variants là qui se développent. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Là, je ne sais pas, mais quand même, je suis heureuse qu'on tente quelque chose dans le but de freiner tout ça. Par contre, les coûts me semblent un peu disproportionnés.
Mais il reste que vous qui avez beaucoup voyagé dans votre vie, Marie-Claude, ça doit vous tenter quand même de reprendre l'avion, non?
Oui, en 20 ans, je dirais que c'est la plus longue période que j'ai fait sans prendre un avion, c'est sûr. Mais en même temps, je comprends pourquoi on fait ces efforts-là et pourquoi en ce moment, c'est pas nécessairement la meilleure des idées.
Ben alors, merci à vous trois pour ces réflexions. Alors, l'opération n'a pris que 5 jours. La procédure de destitution de Donald Trump par le Sénat s'est terminée le samedi 13 février. Le 45e président des États-Unis, qui n'est plus en poste depuis le 20 janvier, a été mis en accusation pour la responsabilité qu'il aurait eue dans l'assaut du Capitole par des centaines de ses partisans le 6 janvier. Donald Trump est le premier président américain mis 2 fois en accusation pour crimes et délits majeurs. Ben, il s'en est sorti les 2 fois. Samedi, le décompte final du vote a été de 57 voix contre 43, mais il en aurait fallu obtenir les 2/3 des votes des sénateurs, soit 67, pour parvenir à un verdict de culpabilité. Réaction de Donald Trump? Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer. Alors, allez-y, Louis Rousseau, ça vous a surpris, ce résultat-là?
Pas vraiment. J'avoue que je trouve que je suis beaucoup trop, depuis 4 ans, précisément depuis l'élection de Trump, l'évolution jour après jour de la politique américaine et de la situation aux États-Unis. Donc, je n'ai pas été surpris du dénouement, mais je dois avouer que, au fond de moi-même, et là je donne au fond mes orientations, mais peu de gens sont neutres sur cette question-là, même si...
Dès qu'il est question du président.
Si ça nous concerne quand même pas directement, indirectement certes, mais pas directement. J'ai écouté, évidemment, je crois que j'ai à peu près rien manqué des plaidoiries qui ont été d'une force démonstrative, j'allais dire, que les meilleurs cinéastes eux-mêmes peuvent construire. Et que même si tout le long, je me disais « oui, mais les républicains changeront pas d'avis ». Je me disais toujours ça, mais ça, c'est comme si tu mets la pédale de frein à ton espoir. Parce que je regardais la démonstration, elle était, à mon avis, extrêmement convaincante. Un jury normal Hein, un jury qui était vraiment neutre aurait sûrement été convaincu. Parce que j'allais dire que la défense était plutôt faible. Mais ce n'était pas un procès normal. C'est essentiellement un procès politique où c'est des acteurs politiques qui, d'une part, attaquent, de l'autre, défendent. Et le résultat, avec sept représentants du Sénat qui ont voté pour oui à l'accusation, c'était presque surprenant. Nous avons découvert à la fois les subtilités du système politique américain, mais en même temps, faut regarder ça sur le fond du problème politique américain. J'entre pas dans les détails, c'est pas le lieu ce matin, mais ce qu'on a, c'est des États-Unis qui, depuis des années, fonctionnent, depuis presque toujours d'ailleurs, avec un bipartisme. Quand l'opinion est polarisé, il n'y a que deux points de vue. Et ça devient l'adversaire de chaque côté, ce qui reste presque plus d'espace pour l'expression d'opinions un peu moins extrêmes, et ce qui nous vaut l'espèce d'emprisonnement, au fond, des débats politiques américains. Et il est clair que Trump, comme personnage charismatique, populaire aux États-Unis, recueille un assentiment très fort de la part de la population. Ce qui va, entre autres, être expliqué, les émeutes qui ont suivi, qui sont produites à Washington, là, dans les dernières minutes où on finissait le processus de changement de pouvoir.
Alors, tout de suite après le vote, là, qui n'était pas en faveur de la destitution là, du 45e président, le responsable, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui est un homme qui a de 78 ans, qui a beaucoup d'expérience parlementaire, en tout cas aux États-Unis, a lancé quelque chose comme « Il n'y a aucun doute, aucun, que le président Trump est moralement et dans les faits responsable d'avoir provoqué les événements de cette journée du 6 janvier. Mmh. » Une remarque très forte, et en même temps, ça n'a pas empêché Mitch McConnell de voter contre la résolution. Non pas parce qu'il n'était pas d'accord avec la destitution, dit-il, mais parce que ce n'est pas à le Sénat. Le Sénat ne serait pas compétent pour juger de ce cas-là lorsque un président n'est plus en fonction. J'aimerais vous entendre, Francis, là-dessus. Vous pensez que ce que tout cela montre, c'est que le Parti républicain est fortement divisé.
Oui, entre autres, François, je suis heureux d'entendre Louis dire bon qu'il n'a pas été surpris du résultat de ce processus-là. Je veux dire, c'était évident que Trump ne serait pas destitué. C'était impossible là, que 17 républicains se retournent pour voter comme quoi il était pour être coupable. Écoutez, en 1868, le premier procès pour destitution pour Andrew Johnson, 80% du Sénat était républicain. Johnson est un démocrate et le vote n'a pas passé. Et Andrew Johnson était extrêmement impopulaire à cette époque-là.
Oui, oui.
Donc, de penser qu'aujourd'hui, en 2021, ça aurait pu passer, je crois là, que ça tenait vraiment de l'utopie. Maintenant, on le voit, ça, pour moi, c'est le résultat, bon, vous avez dit, François, en introduction, Trump s'en est sorti. Personnellement, bon, peut-être je pourrais y revenir dans un deuxième tour de temps, mais il s'en est pas sorti du tout. Il s'en ressort très, très fortement et, moi, je crois, anéanti au niveau politique. Je l'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est ce qui est intéressant. Louis parlait d'un bipartisme, mais je crois que cette question-là, c'est ce qu'on voulait hein, du côté des gens qui soutiennent Trump. On voulait faire passer ce procès-là comme étant une question partisane, donc étant un 50% du Sénat qui voulait montrer, qui voulait se venger de Donald Trump ou des choses comme ça. Mais là, il y a 7 sénateurs républicains qui ont voté comme quoi il était coupable, donc ça peut plus passer comme étant quelque chose d'uniquement partisan. Certes, c'est, on va dire, bon, les gens vont dire, ben, j'en reviens pas, qu'il n'y ait pas 17 personnes qui a voté pour reconnaître Donald Trump comme étant coupable. C'est quand même énorme, 7 personnes qui se sont retournées. C'est 7 fois plus que pour le premier processus de destitution. C'est vrai. On avait seulement Mitt Romney. Donc, c'est quand même 7, c'est pas 6 de plus, c'est 7 fois plus. Donc, 7 fois plus, ça soit 49 pour la troisième fois ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est que le parti est fractionné. C'est pas rien qu'est-ce qui s'est passé, ces 7 votes-là. Bon, Mitt Romney s'était déjà commis lors du premier procès pour destitution. Il l'a fait à nouveau, mais il y a 6 personnes qui l'ont rejoint. Et ça prenait énormément de courage pour le faire. Ces gens-là, ces 7 sénateurs-là, Mitt Romney y compris, mettent encore leur avenir politique en jeu. Ils savaient qu'il était pour avoir des répercussions au niveau politique, au niveau personnel aussi. Hein. Le sénateur, il y a un des sénateurs, là, Pat Toomey, sénateur de la Pennsylvanie, qui a reçu des lettres d'insultes des membres de sa famille. Ça prenait du courage faire ça. Et ce qu'on voit, c'est que le parti est loin d'être uni. Il est loin d'être uniforme. On est loin de penser tous la même chose. Et une déclaration comme celle de Mitch McConnell, elle est énorme. Et elle montre que Donald Trump n'est plus du tout placé, il ne fait plus du tout l'unanimité dans le parti. Il ne peut pas revenir en politique aux États-Unis. C'est absolument impossible, à mon avis.
Alors, Marie-Claude, vous partagez la réflexion de Francis?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas une grande surprise ce qui s'est passé. Effectivement, je pense, un peu comme Francis, que les Républicains qui ont voté pour la destitution de Trump, c'est un suicide politique. Parce que au moment du vote, on ne sait pas dans les deux camps, quel camp va devenir dominant. Les pro-Trump ou ceux qui voudraient au contraire le voir quitter le parti. Donc, moi, je trouve que c'était un suicide politique. C'était très, très courageux aussi. Ce qui ressort pour moi de tout ça, c'est que c'était une opération fortement politique. Je pense que Louis avait raison lorsqu'il disait si ça avait été un jury normal et neutre, c'était très clair. Fort probablement, effectivement, mais tout ça était un jeu politique. Et moi, je pense aussi que les démocrates s'en sont servis pour mieux se positionner dans l'opinion publique. Donc, est-ce que Trump a été destitué? Non. Est-ce que son image a été ternie? Bien sûr. Et maintenant, il faudra voir comment les partisans de Trump vont réussir. Je paraphrase le président, mais continuer la bataille pour que ces idées passent. Il y a un culte de la personnalité, même pour certains, autour de Donald Trump. Et là, en faisant ce procès-là, on l'érige aussi comme martyr. Alors, ça pourrait, au contraire, galvaniser les troupes. J'espère que ça ne sera pas le cas et que, au contraire, on le verra s'effacer de plus en plus. Théoriquement, c'est vrai, il pourrait revenir pour les prochaines élections en 2024, mais est-ce que les Républicains le laisseront revenir? Ça, c'est une question qui n'est pas encore terminée. On doit continuer à y réfléchir, j'imagine, du côté des Républicains.
Alors, vous y croyez, vous, Louis Rousseau, au retour de Donald Trump dans 4 ans?
Je dois avouer que je demeure profondément troublé et marqué par la conviction en quelque sorte absolue d'une partie de son électorat, parce que à la limite il faut peut-être parler de l'électorat Trump et à chaque fois qu'on parle de l'électorat républicain, quel est l'écart, les non-trumpiens, on aimerait bien qu'il y en ait davantage, mais je suis pas sûr. Moi, ce à quoi il faut réfléchir pour les quelques mois et quelques années, c'est qu'est-ce que la présidence Biden va faire dans l'opinion publique américaine? Est-ce que Biden va réussir à convaincre par la qualité et l'importance des réalisations qu'il va faire, que vous dites, moins une dépolarisation, que les gens vont dire, bon, il y a Trump qui a promis beaucoup, mais qui nous a peu donné, finalement, et il y a Biden, auquel on n'a peut-être pas fait confiance au moment de l'élection, mais dont les éléments de programme et l'action, l'activité, ce qui va se passer dans la vraie vie, est-ce que ce qui va se passer dans les changements réels va réussir à diminuer l'importance, j'allais dire, du fantasme et du mensonge général qui caractérise la personnalité de Trump? Là-dessus, en tout cas, moi, je ferai surtout aucune prévision. Je dois dire que c'est de l'ordre de l'espoir. Est-ce que les États-Unis vont pouvoir changer un peu pour compenser tous les déplacements, les glissements de l'opinion polarisante que la présidence Trump a introduit?
Alors, Francis Daou, je vous donne le dernier mot. Brièvement, vos prédictions pour 2024?
Mais je pense qu'avant de penser en 2024, moi je crois que Donald Trump va être en prison là de toute façon, parce que la déclaration de Mitch McConnell, évidemment il y a une blague derrière ça, mais ça commence déjà là, au cours des prochaines semaines, il va avoir une avalanche de cas contre lui parce que la déclaration de Mitch McConnell, elle fait en sorte que Trump a perdu, on pourrait dire son immunité à des poursuites civiles. Parce que là, bon, c'est une question politique. Louis l'a bien mentionné, Marie-Claude aussi. Mais on va entrer dans les questions civiles. Il y a des gens qui sont morts là, suite à cet événement-là, à l'assaut du Capitole. Et il y a des familles qui vont prendre des recours. Et la déclaration de Mitch McConnell qui dit que Donald Trump est un criminel et qu'il est responsable des choses qui sont arrivées, des morts. Alors, il va y avoir des poursuites aux civils. Et on sait qu'il y a des poursuites qui arrivent présentement. Là, il y en a une qui est sortie hier pour toute la question de la sécurité nationale. Donald Trump a mis le pays en danger avec ses déclarations. Donc, je pense pas que c'est impossible qu'il soit là en 2024. Et de toute façon, avant de penser à 2024, il faut penser à 2022. Les républicains sont mal positionnés. On a parlé du parti tout à l'heure, mais il y a 65 % des républicains aux États-Unis qui seraient en faveur de la création d'un troisième parti. Alors, ça va pas bien du tout. Ils doivent trouver quelqu'un qui va leur permettre en 2022 là, d'essayer de reprendre le contrôle du Sénat. Donc, ça prend un chef fort. Malheureusement, je crois pas que ça va être Donald Trump. Malheureusement, c'est ce mouvement-là qui a été commencé et on va se retrouver avec des personnes comme Ted Cruz qui ont pas une politique tellement plus progressiste là, que Donald Trump.
Alors, depuis 4 ans, à Foi et Turbulence, on n'arrête pas de parler de Donald Trump à peu près la plupart de nos émissions. Et là, ce que vous nous annoncez, c'est qu'on risque bien d'en parler pendant les 2 prochaines années. Alors, merci pour tout ça. Merci à nos 3 commentateurs là, et commentatrices pour ces données-là. Alors, on revient dans quelques instants. Alors, dernière partie de notre émission de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec nos 3 invités, Marie-Claude Lanonde, de l'aide à l'Église en détresse, Louis Rousseau, professeur émérite, et Francis Daou, directeur général de la Société catholique de la Bible. Alors, lors de notre dernière table ronde sur l'actualité, ça a eu lieu il y a 2 semaines, donc le mercredi 3 février. 2 jours plus tard, une juge de la Cour supérieure a déclaré que la limite des 10 personnes autorisées dans un lieu de culte, une limite décrétée par le gouvernement Legault, s'applique non pas à tout le bâtiment, mais bien à chacune de ces salles, à la condition que ces salles soient desservies par un accès indépendant à la rue, sans partager jamais d'espace commun avec les autres salles. C'est un jugement de 53 pages qu'a rédigé la juge Chantal Masse. Elle a donné raison au Conseil des Juifs hassidiques du Québec, qui estimait que les règles édictées dans un protocole sanitaire qui avait été approuvé en novembre 2020 n'avaient jamais été invalidée, surtout pas par la décision du 21 janvier, vous vous souvenez, alors que le premier ministre annonçait que seules 10 personnes pouvaient dorénavant se réunir dans les différents lieux de culte du Québec. Si le gouvernement avait voulu interdire les rassemblements dans plusieurs salles à l'intérieur des lieux de culte, il aurait dû le dire très clairement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la clarté de la règle du droit applicable n'était pas au rendez-vous, a écrit la juge Masse. Et pourtant, quelques jours plus tôt, le 26 janvier, le premier ministre François Legault avait, en tapant la main sur la table, dit « il n'y aura pas de passe-droit pour aucune religion ». Répondant à une question sur la présence de plus de 10 personnes dans des synagogues hassidiques de Montréal durant la fin de semaine précédente, le premier ministre avait d'abord blâmé les fins finaux qui cherchent toujours à contourner les règles. Il y a des fins finaux qui ont dit que nous avons 3 portes, donc 3 salles, alors on sera 30, avait-il lancé avec un petit sourire avant de déclarer, je vous le dis, c'est 10 le maximum dans une bâtisse. Marie-Claude Lalonde, vous êtes une avocate, en plus d'être la dirigeante d'Aide à l'Église en détresse. Vous avez réagi comment? Vous l'avez vu, ce jugement-là? C'est quand même impressionnant, 53 pages.
Oui, c'est un long jugement. La raison en est peut-être aussi la multiplicité des procédures. On demandait beaucoup de choses par des voies légales différentes dans ce cas-là. Pour moi, c'est un cas clair du rôle des tribunaux par rapport au rôle du gouvernement. C'est-à-dire, il y a toujours une balance, un équilibre qui se fait entre les deux. Un juge peut toujours dire « non, c'est pas ça que ça veut dire ». Le gouvernement peut toujours revenir et préciser ce qu'il veut. Et c'est un peu ce que la juge dit dans son jugement, de dire « ben écoutez, le gouvernement, s'il n'est pas d'accord avec mon interprétation, peut toujours modifier la chose et la rendre plus claire. » Alors, c'est vrai, le gouvernement pourrait faire quelque chose comme ça. Il y avait deux aspects peut-être plus évident de ce procès-là. Il y avait toute la question de définir qu'est-ce qu'un lieu de culte eu égard aux différents décrets, arrêtés ministériels et même de la correspondance avec le docteur Arruda. Et l'autre, c'était toute la question constitutionnelle qui n'a pas été débattue au fond. Hein. C'est un aparté que fait le juge un peu pour nous parler de ça. Et bon, selon la juge, un lieu de culte, oui, chaque salle peut être un lieu de culte et donc 10 personnes par salle. Et si un édifice comprend 50 salles, ben vous voyez, on multiplie ça par 10.
Oui, attention, il faut que vous ayez 50 portes alors.
50 portes. Je suis pas architecte, hein, vous le voyez. Mais oui, effectivement, et c'est son interprétation de tout ce qui s'est passé avec le gouvernement. Puis moi, je tiens à mentionner une chose. Toute cette histoire-là avec la police qui est intervenue a fait très, très mal paraître les Juifs hassidiques, mais je peux vous dire que des catholiques et des protestants en faisaient autant. Donc, ils n'étaient pas les seuls à accueillir 10 personnes par salle, parce que dans le monde religieux, c'est ce qui avait été compris. Et peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails de toute la question là, constitutionnelle, non constitutionnelle, mais ce que j'aimerais au moins dire, c'est les gens pensent que parce que c'est dans la Constitution, parce que c'est dans la Charte des droits et libertés, un droit est absolu. Et ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. En fait, on peut limiter un droit. Il y a des critères très, très stricts. On peut penser qu'une pandémie peut être une raison pour limiter un droit. Et bien ça, je pense que ça sera encore débattu peut-être longtemps.
Oui, bien, vous avez raison de le mentionner, parce que dans la plainte, ou enfin dans ce que le Conseil des Juifs hassidiques du Québec avait présenté à la Cour, il y avait bien sûr toute la question des salles séparées. Ce point-là, ils l'ont gagné. Mais il y avait aussi toute la question de la liberté de religion. Entre autres, les Juifs hassidiques disaient, bien, écoutez, dans la loi juive, pour qu'une prière soit valide, il doit y avoir 10 personnes, un minimum. Pas 9, pas 8, 10 personnes. Chez les Juifs plus orthodoxes, 10 hommes. Chez les Juifs plus libéraux, 10 hommes et femmes. À ce moment-là, la prière est valide. Ce n'est pas quelque chose qu'on a du côté des musulmans, par exemple, pour qui la prière est individuelle, ou encore du côté des chrétiens, par exemple, où là, lorsque deux ou trois sont réunis, lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous pouvez aussi avoir une prière valide. J'aimerais vous entendre là-dessus, Louis Rousseau, vous connaissez bien Montréal, vous connaissez bien les communautés culturelles de Montréal. C'est quand même ça a été une défaite d'une certaine manière là, pour le Conseil des Juifs hassidiques. La juge n'a pas accepté leur réflexion à ce niveau-là.
Je connais bien, j'ai déménagé dans Outremont et dans le secteur le plus densément occupé par les communautés hassidiques. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, en me disant « je veux qu'il y ait contact avec un milieu multiculturel ». Cela dénotait de ma part une profonde ignorance de ce qu'est la culture hassidique, parce que jamais, évidemment, mes enfants ont eu le droit de jouer avec les petits voisins juifs. Mais ceci simplement pour dire, oui, je suis ça passionnément, cette situation, depuis très, très longtemps. Je pense que les communautés hassidiques, d'une part, ont eu raison d'arriver sur la scène, de pas simplement laisser aller une interprétation qui a été celle, et c'est sérieux, mais c'est bien ce que le juge relève, c'est le procureur général du Québec qui, dans un avis, est allé contre une entente qui faisait l'unanimité, en tout cas qui a été acceptée par les représentants de toutes les traditions religieuses et le gouvernement. Mais donc, ils ont eu raison, mais ils ont aussi poussé l'affaire un peu loin. Ils ont essayé de faire une deuxième conquête en passant du côté des droits fondamentaux. Et là, j'ai trouvé, moi, qui ne suis pas du tout avocat, mais j'adore le raisonnement des juges, j'ai trouvé que la juge est allée aussi elle-même un peu plus loin. Elle a comme voulu spéculer sur ce que ferait un autre tribunal qui serait saisi, lui, strictement de la question de l'atteinte à plusieurs des droits fondamentaux, à commencer par celui du droit de religion. Et, bon, on n'entrera pas dans le détail là-dessus. Ce qui m'a frappé, c'est un élément de la réaction de la juge. En temps de pandémie, l'État a la responsabilité de veiller à la santé de la population. Pour ce faire, certaines de ces règles peuvent causer des sacrifices à la population. On doit changer certains éléments de notre mode de vie. Et là, la juge ajoute, on peut penser, elle ne statue pas, mais elle fait une spéculation, on peut penser qu'on peut demander aussi aux communautés religieuses de faire certains sacrifices.
Et elle a utilisé ce terme-là.
Oui, puis c'est un terme qui fait encore partie d'un vocabulaire assez sérieux au Québec.
Oui.
Et ça, j'ai trouvé, d'une part, j'ai aimé beaucoup, moi, qu'elle s'avance en disant « je ne statuerai pas là-dessus », mais ce que je vais vous dire me semble être raisonnable et devrait être sérieusement pris en considération. A, prendre en considération les droits fondamentaux, c'est raisonnable, mais B, on peut aussi considérer que c'est pas des absolus, comme Marie-Claude l'a dit, et qu'il faut à chaque fois arbitrer avec un peu un accordéon, en prendre un peu plus, en prendre un peu moins. Et là-dessus, elle a même, et là je me disais, elle veut parler au gouvernement, elle a ressorti la question de la discrimination systématique. J'imagine que mes autres collègues ont souri en voyant ça, parce que c'était pas obligatoire qu'elle aborde là-dessus. Mais là, elle a dit au fond, le Parti québécois, lorsqu'il était au pouvoir, s'est bien rendu compte que certaines lois peuvent avoir des effets discriminatoires, mais non voulus. Et c'est ça la définition même de la discrimination systématique, que notre premier ministre actuel refuse à être capable d'utiliser et que ça sorte de sa bouche.
Vous voulez lancer un autre débat, là, Louis Rousseau?
Non, non.
Allez-y, Francis. vous êtes un bibliste. Vous avez peut-être lu le jugement là, de la juge Masse. Il y avait pas, évidemment, de réflexion biblique. C'était un texte juridique, là. Mais il y avait des termes, par exemple, comme le terme sacrifice qui apparaît à quelques endroits. Mmh. Et c'était intéressant, à mon avis, de pouvoir lire ça à l'intérieur d'un texte qui est quand même assez aride, là, et tout ça. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord du jugement, Francis?
Mais pour ce qui est du jugement, écoutez, toutes ces technicalités-là de droit, c'est quelque chose bon, dans laquelle je ne suis pas vraiment formé, là, donc qui me dépasse un peu. Mais ce que je vois beaucoup et la question que je me pose, bon, je crois que ce que je vois, c'est que, bon, il y a comme deux poids, deux mesures quand il y a la question des lieux de culte. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission, on a parlé des cinémas. Donc, pourquoi il y a des catégories, les lieux de culte, c'est des lieux de rassemblement différents, par exemple, d'une salle de cinéma ou d'une salle où on va faire du sport ou quelque chose comme ça. Et personnellement, quand j'ai fait des recherches sur ce sujet-là, écoutez, sur le site du gouvernement, c'est extrêmement difficile de trouver des informations au sujet des lieux de culte. Hein. C'est dans une sous-section d'une sous-section d'une sous-section. Et je pense qu'on voit un peu... à travers toutes ces choses-là, moi, personnellement, ce que je vois, c'est le mépris de François Legault pour tout ce qui est pour le phénomène religieux au Québec. Il avait montré ses couleurs en partant dès la première semaine qu'il était au pouvoir avec la question des accommodements religieux. Il avait dit, bon, mais il n'y en aura pas, avec un autre petit coup de poing sur la table. Et... bon, je crois que ça transparaît beaucoup présentement et que je me demande pourquoi les lieux de culte sont une catégorie à part. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, bon, les lieux de rassemblement, un point, c'est tout, et d'arrêter de faire des gens qui vont dans des lieux de culte, des gens dans une catégorie à part. Ceci étant dit, d'un point de vue biblique, moi, je lis ça, cet événement-là, bon, des rassemblements dans les lieux de culte d'un point de vue plus religieux, d'un point de vue biblique. Il y a une chose qui est évidente dans la Bible, c'est qu'autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est que le judaïsme, le christianisme, ce sont des religions de collectives. Hein. Il y a un pôle individuel, vous l'avez mentionné tout à l'heure, François, en disant, bon, où on peut se retirer seul dans une pièce et puis prier. Cette prière-là, elle est tout à fait valide, mais le Nouveau Testament nous parle des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes. C'est des textes qui ont été écrits, même si on dit l'évangile de Marc, de Luc, Matthieu, Jean, sont des textes qui ont été écrits par des communautés principalement, et principalement pour des communautés aussi. On voit beaucoup cet aspect-là du phénomène religieux qui est un phénomène collectif, et c'est normal que cet aspect-là, ce pôle-là, de l'expérience religieuse juive et chrétienne, elle est en péril présentement. C'est normal qu'on voit des gens réagir et vouloir retrouver cet aspect-là qui est essentiel de la religion.
Alors, je suis content que vous ayez abordé cette question-là. La première question, en tout cas, sur le nombre de personnes, je voulais vous lancer, en tout cas, là-dessus, dans la dernière minute de cette émission-là. Je vous rappelle là, qu'actuellement, pour les lieux de culte, quels qu'ils soient, en zone rouge, 10 personnes. En zone orange, 25 personnes. On a appris il y a quelques jours, quelques semaines, en fait, la semaine dernière, qu'en zone orange, les salles de spectacle allaient aussi pouvoir ouvrir. Et c'était aussi le cas des cinémas à partir du 26 février. Et là, maintenant, c'est étendu pour seulement les cinémas à la zone rouge à 250 personnes. Alors, la question que certains osent poser, vous l'avez posée juste un peu auparavant, Francis, pourquoi cette discrimination-là? Pourquoi, par exemple, déjà vous avez entendu là, les responsables des théâtres dire en zone rouge, nous, on ne peut pas ouvrir, mais une salle de cinéma peut ouvrir. C'est la même fonction. Les gens sont assis dans la même salle, une salle semblable, tout ça. Et on peut s'attendre à entendre, j'imagine, les responsables des lieux de culte dire, ben écoutez, 10 personnes, ça n'a pas de sens. Pensez aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres pour les catholiques et les orthodoxes. Ben 10 personnes à l'oratoire Saint-Joseph, c'est pas beaucoup. Heureusement que l'oratoire Saint-Joseph a beaucoup de portes et il y aura plusieurs groupes de 10 personnes. Je voulais vous entendre là-dessus, Marie-Claude.
Bien, écoutez, je suis un peu, moi aussi, je suis un peu dans la confusion. Je comprends tout à fait que si on ouvre les cinémas, les gens de théâtre se demandent comment ça se fait que nous, on peut pas. Les églises se demandent comment ça se fait qu'on peut pas. Je pense que le gouvernement a tenté de faire un assouplissement pour la semaine de relâche. Sans semaine de relâche, ces assouplissements-là n'auraient tout simplement pas eu lieu. Ils ont choisi ce qu'ils considéraient des loisirs de famille pour alléger les mesures. Une des choses que j'ai entendu M. Legault, et ça m'a fait sourire, répéter plusieurs fois, c'est que pour l'Église, c'est différent parce que vous savez, à la messe, les gens se rassemblent après puis pour jaser. C'était les termes. Exactement, exactement. Alors, la messe finie et tout le monde se sauve. En tout cas, pour moi, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route, mais je pense que les églises doivent aussi faire partie de l'effort collectif.
On peut s'attendre, Louis Rousseau, à ce que les responsables des lieux de culte fassent des représentations dans les prochains jours?
J'avoue que je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne sais pas. Moi, depuis le début des restrictions liées à la pandémie, donc il y a presque un an, je me dis, le critère d'un nombre de personnes est un espèce de critère en ce qui concerne les espaces, en dehors des espaces domestiques, là, mais dans des espaces collectifs, c'est un critère en nombre absolu qui est pas tellement raisonnable en soi. C'est les volumes qui comptent. Hein. Moi, je fréquente une grande église classique montréalaise, donc qui peut loger probablement, mettons, 700-800 personnes, et versus des petites salles. Il n'y a pas de lieu religieux normé, unique. Hein? Il y a les grandes églises. Mais alors, donc, le nombre absolu m'a toujours paru, en tout cas, plus pénible pour les églises que pour d'autres choses. Et là-dessus, je suis d'accord avec l'observation qu'on a faite. Il y a un préjugé anti-religieux de la génération de M. Legault en particulier, qui, disons, brouille son discours, d'une part, sa législation et, comment dire, la perspective générale dans laquelle il tient et prend en compte du facteur religieux.
Alors, je vous rappelle que la fête de Pâques, c'est le 4 avril. L'an dernier, les chrétiens n'ont pas pu se réunir lors de la fête de Pâques. On verra bien cette année s'ils le pourront. En tout cas, on en reparle à la prochaine fois à Foi et Turbulence. Alors, merci à tout le monde. Je vous rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation Lucien Labelle et de la Fondation Adieu. Dieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 3 mars 2021. On vous y donne déjà rendez-vous. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Marie-Claude Lalonde, Louis Rousseau et Francis Daou. Merci à Mathieu Lavigne, le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin, à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenet de l'agence de presse Présence qui vous remercie d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.